Cette semaine à Aime la vie, on s'informe, on parle de bonnes nouvelles et on parle de nouvelles différentes également. Et spécialement cette semaine et pour les trois prochaines semaines, les deux prochaines semaines, notre ami Robert Blondin sera avec nous, mais de très très loin. En fait, il est au Nicaragua pour écrire la biographie de Marcel Sabourin. Il nous fera part de ses trucs pour le bonheur et de ce qui le fait sourire cette semaine, mais à distance. Et on parle également de créer du beau en architecture avec l'architecte Lucas Yakouvakis. Bienvenue à Aime la vie! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure. Mon ami Robert viendra nous rejoindre téléphoniquement, par contre, cette semaine. Il va nous manquer, mais il reviendra en grande forme et surtout très bronzé. Il est très chanceux. Et cette semaine, je commence avec un sujet. En fait, je pense que j'ai profité de son absence pour parler d'un sujet qui l'aurait probablement fait grimper au rideau. Je le salue d'ailleurs. Quand il réécoutera l'émission, il rira. Parce que je parle de la science et quand la science rejoint le non mesurable. Hein, on est rendu là. Hein, de plus en plus d'études s'intéressent à la vie après la mort, à l'âme et à la conscience. Tous des concepts qui sont difficilement mesurables, voire imperceptibles et encore moins objectivables, ce qui pourtant semble être les bases de la science là, pour pouvoir avoir des résultats prouvés empiriquement. On doit pouvoir observer des choses. Reste que comme on mesure des états psychologiques à l'aide d'échelles diverses et que quand on y pense un peu, il reste assez difficile de réellement mesurer des émotions, des états, pourquoi on n'irait pas commencer à s'intéresser à ces autres idées qui nous amènent un petit peu plus loin? Et il y a des articles qui sont passés sous mes yeux cette semaine et qui ont attiré mon attention à cet effet. Des scientifiques ont prouvé, Jean-Sébastien à la régie tend l'oreille, oui c'est ça, des scientifiques ont prouvé ou ont trouvé, c'est selon, que l'âme ne meurt pas et qu'elle retourne à l'univers. Bien sûr, c'est un titre qui m'a interpellée, alors j'ai fait la lecture et c'est pas un livre de psychopop qui nous le dit, c'est une étude qui est menée par le physicien américain Stuart Amroff et le mathématicien et physicien Sir Roger Penrose, tous deux pionniers des théories de l'esprit quantique qui stipulent que la physique et la physique quantique à elle seule ne peuvent pas expliquer la conscience de l'homme. Et ils ne sont pas seuls à travailler dans ce nouveau champ scientifique d'ailleurs, mais ils sont les pionniers. Et pour faire une petite aparté d'emblée, on connaît bien la physique, mais on connaît un peu moins la physique quantique, mais c'est pas nouveau. Et on n'en parle encore que trop peu. Grosso modo, la physique quantique s'intéresse au comportement des atomes et des particules, ce que la physique classique n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. Et selon leurs études à M. Amroff et M. Penrose, le cerveau humain serait comme un ordinateur biologique et la conscience humaine serait comme un programme joué par un ordinateur. Les chercheurs ont d'ailleurs avancé que l'âme humaine se retrouverait dans des microtubulures, des cellules du cerveau. Ils appellent ce phénomène-là la réduction objective orchestrée. Donc, ils ont vraiment étudié ce qui se passe dans ces microtubulures de cellules du cerveau. On est rendu à petite échelle, on se comprend là. Et c'est là qu'on voit la différence et où on en est rendu. J'ai trouvé ça fascinant. Quand on est déclaré cliniquement mort, les microtubulures du cerveau perdraient leur qualité quantique, mais seraient encore capables de processer et d'emmagasiner de l'information. Non seulement ça, mais alors qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, ce qu'on retrouve dans les microtubulures des cellules du cerveau, soit l'âme, comme on la connaît et comme la définissent les chercheurs, elle pourrait ne jamais être détruite en aucun cas, et serait plutôt dispersée. Si la personne revient dans son corps, l'âme ici reviendrait dans les microtubulures des cellules du cerveau, et à ce moment-là, la personne aurait eu une expérience de mort imminente et tout se remet en marche. Donc clairement, entre le temps où la personne est décédée et la personne où le moment où la personne revient à la vie, Ce qui constitue l'âme, selon ces chercheurs-là, c'était bien à quelque part à l'extérieur du corps, toujours disponible, toujours vivant. Et pour eux, c'est inéluctable que ce qui nous constitue va bien au-delà de la physique et de la biologie. Et on ne parle pas simplement du fonctionnement de certaines parties du corps après la mort qui explique le retour de notre caractère, de notre personnalité, si on peut dire. Sérieusement, il y a quelque chose d'autre qui se maintient, qui est plus perceptible dans notre physique comme on la connaît et qui est quelque part. Et là, ils sont rendus là, ils avancent, et j'ai lu des choses, entre autres que le cerveau, on dit de la Terre qu'on est dans un monde de trois dimensions, le 3D, et ils sont en train de découvrir des réseaux dans le cerveau qui iraient jusqu'à 11 dimensions. Et actuellement, ce qu'ils sont en train de découvrir par rapport au réseautage du cerveau, là, c'est au-delà de tout ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Je vais continuer à fouiller certainement dans ce pan de connaissances-là, et je vais vous mettre au parfum absolument, parce que c'est des choses qu'on ne parle pas assez souvent, je pense. Et là, on parle d'une mort clinique, on parle de vie après la mort, on parle d'expérience de mort imminente, et on parle également qu'il y a des choses qui perdurent ou perdureraient, selon plusieurs chercheurs, suite à une mort déclarée clinique de notre corps physique. Par contre, c'est connu que le cerveau continue de fonctionner après la mort. Et il y a plusieurs informations assez percutantes et pertinentes qui sont ressorties par rapport à ce qu'ils ont découvert concernant ce fonctionnement-là. Actuellement, notre compréhension de la mort nous mène à considérer quelqu'un de cliniquement décédé quand le cœur arrête de battre et que le système circulatoire cesse, mais le cerveau, lui, continue jusqu'à plus de 10 minutes après la mort clinique. Ce serait même la dernière partie de notre corps physique à arrêter. On a étudié ce phénomène-là et ce qui en ressort est complètement fascinant. Quelques minutes avant la mort, notre cerveau émet des ondes électromagnétiques qui sont propres au phénomène de la mort physique et qui sont encore très peu compris, voire incompris. Ils sont en train de l'étudier. D'ailleurs, la science, moi-même, dans mes études en psychologie, quand je faisais des cours de neuropsychologie, on nous apprenait que la glande pinéale, qui est une glande qui est dans notre cerveau, on nous apprenait que ça ne servait plus à grand-chose, alors qu'on sait, quand on cherche un peu plus loin d'autres types d'informations, qu'elle sécrète de la DMT, qui est une hormone qui est trouvée à plus grande quantité, en plus grande quantité dans le sommeil, oui, surtout lors de la période des rêves, mais également après la mort. Donc, même si on ne comprend pas bien encore les ondes électromagnétiques qui entourent le décès physique d'une personne, ça ne veut pas dire qu'on ne les comprendra pas dans quelques temps, pas si lointain, moi j'ai confiance. Non seulement le cerveau émet certaines ondes électromagnétiques autour du phénomène de mort physique quelques minutes avant, mais il commence également à perdre de l'oxygène. Non seulement le cerveau reste actif pendant plus de 10 minutes, mais on resterait conscient également et littéralement, et ce, de 2 à 20 secondes après que le cœur ait arrêté de battre. Et ça s'explique parce que le cortex cérébral peut fonctionner sans oxygène. Donc, l'oxygène que le cerveau perd n'affecte pas le fonctionnement du cortex cérébral et c'est la partie qui est responsable de nos réflexions, de nos prises de décision et aussi de transformer les informations reçues par notre environnement en action. Clairement, à ce moment-là, on n'a plus l'action possible, par contre, mais le chemin qui se fait avant l'action reste encore disponible. Et c'est le centre de la mémoire, lui, qui abandonne le moins facilement. C'est là où sont emmagasinés nos souvenirs avec une plus grande teneur émotionnelle. Les balades avec grand-papa et grand-maman en Camaro tous les dimanches après-midi, c'est là que ça se trouve. Et cette partie du cerveau, elle n'est pas touchée par la perte de cellules sanguines qui mènent à la perte d'oxygène parce que c'est les globules rouges, en fait, là, qui s'occupent de ça. Comparativement au reste du cerveau, et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs le fil de vie. Hein. Tu sais, voir sa vie défiler devant ses yeux, que les gens rapportent quand ils ont vécu une expérience de mort imminente, c'est ça qui expliquerait ce phénomène-là. Et je trouve ça absolument fantastique. Et là où ça devient intéressant également, c'est qu'ils ont étudié le phénomène du cerveau dans les 10 minutes après la mort clinique et que chaque individu a son fonctionnement quasi individuel, ce qui expliquerait également les différences qui sont rapportées lors d'expériences de mort imminente. Et j'avais d'ailleurs eu la chance de discuter avec une femme qui elle-même a vécu une telle expérience et qui nommait ces différences qui sont inhérentes à nos croyances, nos connaissances, par exemple. Donc, chaque personne a un bagage différent nécessairement et ça expliquerait les différences perçues dans les expériences de mort imminente. Et là, on comprend que ça se pourrait que ce soit notre cortex cérébral qui emmagasine nos souvenirs qui pourrait venir jouer sur ces différences-là. Et ça va encore plus loin. Des chercheurs ont étudié des gènes. Donc là, on est rendu sur le plan de l'ADN pendant plus de 2 jours. Après la mort clinique, et il y a plus de 1000 gènes qui continuent de fonctionner même après 48 heures. Et ces gènes-là sont très importants d'ailleurs. Donc, il y a des gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire, dans l'inflammation et dans la gestion du stress. Et ils se sont rendus également compte que certains gènes encore actifs 48 heures après une mort clinique seraient des gènes actifs uniquement au stade embryonnaire. Donc, on stipule que le corps pourrait essayer de se protéger de la mort en revenant à un stade cellulaire de base qui s'apparente davantage au développement de la vie sur Terre plutôt que celui qui la quitterait. Si on fait juste ces gènes-là quand on est en train de se développer dans la mer et qu'on refait la même affaire, il y a comme un phénomène de retour à la vie. C'est vraiment spécial. Et là, ils sont en train d'étudier ça. Il y a aussi la découverte que pour certaines personnes, le fonctionnement des gènes qui restent actifs dans les 48 heures succédant la mort clinique créerait des mutations cellulaires qui seraient sous forme de cancer. On le sait, hein, les cancers, ce sont des multiplications d'amas cellulaires qui n'ont pas d'affaires là, finalement. Puis quand on est décédé, il y a certaines personnes pour qui ça créerait des amas cellulaires qui ressemblent à des cancers. Donc, la conclusion, on comprend très mal la mort et les connaissances et les conclusions qui sont véhiculées actuellement seraient soit partielles ou soit complètement fausses. Et je crois que la science devra bientôt changer son fusil d'épaule. Thank you. Donc, on connaît l'importance d'évoluer dans des milieux qui sont visuellement beaux, qui sont visuellement attrayants. On commence à considérer d'ailleurs les changements de décor dans nos écoles, dans nos hôpitaux, pour mieux répondre à ce besoin-là que l'humain a à se développer dans un milieu physique joli, qui est apaisant. Et on parle du bonheur de participer à la beauté du monde aujourd'hui avec l'architecte Lucas Iacovakis. Bonjour, M. Iacovakis.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Un plaisir.
Alors, on va parler de votre métier, un métier que, architecte, j'aurais aimé être ça dans la vie. On avait des cours au secondaire où on nous montrait un peu le design intérieur, mais quand j'ai compris qu'un architecte devait décider également où allait la ventilation et l'aqueduc, non.
Non.
Oh mon Dieu, non, mais vous voulez pas que je m'occupe.
En fait, un architecte, c'est un grand chef d'orchestre. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il maîtrise tous les domaines qui sont autour de lui.
Et qui sont? Alors,
ben, en fait, autant vous parlez de la mécanique de bâtiment, mm-hmm. de la ventilation, de la structure, il faut qu'il comprenne l'isolation du bâtiment, l'étanchéité, mais l'urbanisme aussi. Moi, j'ai plutôt une formation donc, en architecture, mais j'ai aussi une formation plus proche de l'urbanisme, de l'architecture urbaine. Donc, comment on voit la ville? Comment le bâtiment doit s'implanter dans la ville, comment il considère, comment c'est quoi l'échelle d'un quartier. Puis ensuite, bon, on rentre à l'intérieur, puis on va aller dans une plus petite échelle. Puis,
mais c'est ça, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, là. Ça, c'est super important.
C'est un art, c'est vraiment une expression culturelle. Ça veut dire que l'architecture, ça s'inscrit dans la longueur. Il y a peu d'art. Il faut comprendre qu'on vit dans l'architecture et qu'elle est tout le temps constante autour
elle est
de
partout.
Nous. C'est ça. Et par exemple, quand on va par exemple en Europe ou quand on va en Asie, on a même des traces du passé qui sont très, très présentes, donc on vit avec ça. C'est l'art de la durée, là, mais c'est l'art du lieu aussi. Et c'est là, ces particularités, ils sont là. Et quand vous tantôt parlez de déco ou de joli ou tout ça, pour moi, ça va au-delà de ça. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas...
Ça va où?
Ça veut dire que pour moi, quand un projet, quand je vais dans un endroit qui est réussi, il y a comme une cohérence, puis à ce moment-là, je sens comme une harmonie dans ce lieu-là. Puis à ce moment-là, tout ça se tient. C'est comme si ça forme un tout. Mais je pense que c'est pas mal comme tout. Par exemple, si je fais de la musique... Quelque chose qui est une bonne musique, c'est une musique qui a cette notion-là d'une cohérence. Ça peut être choquante, mais elle a cette cohérence de l'œuvre qui est aboutie. L'architecture, c'est pareil.
Donc, comme à l'oreille, la musique doit être harmonieuse ou faire un
sens. Elle n'est pas nécessairement harmonieuse. Elle peut être, mais je dirais cohérente. Ça veut dire que tout ça... Moi, je suis associé... Notre bureau s'appelle YH2, puis je suis associé avec Marie-Claude Amelin. Puis Marie-Claude, au début, maintenant, elle ne fait plus, mais au début, elle avait un truc très drôle. On faisait des projets, puis après ça, elle leur mettait des notes. Elle disait s'il était réussi ou échec. Puis son réussi ou échec, c'était est-ce que le projet est cohérent, puis quand tu rentres, tu dis ça, c'est de l'architecture. Parce que c'est pas tout ce qui est construit qui, pour moi, est de l'architecture. Pour moi, de l'architecture, c'est quand le projet atteint cette cohérence-là.
Mais justement, vous avez fait le projet qui s'appelle Géométrie noire, et je vous écoutais parler par rapport à ce projet-là, et vous avez dit qu'il était extrêmement important de faire une continuité avec l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, donc ça va jusque-là, la cohérence. Là.
Oui, puis en même temps, il faut voir que dans le climat qu'on a, l'architecture, c'est comme c'est cette notion d'abri. Mais en même temps, l'architecture idéale, ça serait, pour moi, si tu me donnais le choix, ce que j'aimerais, c'est vivre dehors, dans la nature.
Bien, c'est un peu ce qui est plus proche de la nature humaine, mais on l'a un petit peu perdu au fil du temps.
Oui, mais l'architecture, pour moi, si j'étais capable de faire un projet idéal, ça serait ça. Ce sentiment-là que je suis dehors, mais avec une complète intimité, puis protégé des intempéries. Donc,
vous travaillez énormément avec les fenêtres,
j'ai
remarqué,
c'est sûr,
avec la lumière.
Les transparences, quand je parlais des prolongations, par exemple, les matériaux qu'on utilise à l'intérieur et à l'extérieur sont souvent les mêmes. Ça, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas une si grande palette de matériaux qu'on peut utiliser
du
autant.
Bois,
Du bois, mais non, parce que le bois, en fait, souvent va vieillir très différemment à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc c'est pas si facile. Mais tu sais, par exemple, on va utiliser souvent de l'acier corten, qui est un acier pré-patiné, là, qui est comme rouillé, parce que lui, on peut l'utiliser autant à l'extérieur. Le béton, les pierres, mais le bois aussi, effectivement, on le travaille comme ça.
Donc, la constitution, les matériaux utilisés à l'intérieur de la maison vont être ceux qu'on va retrouver, du moins dans vos architectures, à l'extérieur également.
Oui.
Pour une continuité.
On va l'utiliser idéalement. Comme ça, mais pas partout. Puis quand on va travailler, par exemple, sur les ouvertures, on va les travailler de façon très précise par rapport à des vues ou par rapport au soleil ou par rapport au vent. Par exemple, on parlait géométrie noire, c'est une maison à la campagne. C'est un projet donc très, très sculptural avec des formes qui sont assez, pour dire, aiguës presque. Donc, c'est des angles très, très durs presque. Et c'est ce rapport, ça vient s'implanter dans la nature, mais un peu sur le modèle de ce qu'on appelle les boulders, ces espèces de grosses roches, là, des grosses pierres de calcaire qui sont déposées dans le paysage. Le projet a un peu cette nature-là.
Là, je vous écoute parler, vous êtes quasiment un météorologue. Non, mais dans le sens où il faut être au courant d'à peu près tout ce qui se passe autour de
vous. Vous prenez un chef d'orchestre.
Vous prenez le temps d'étudier où vous allez poser vos créations. Là.
L'architecture, la première chose pour moi, c'est l'art du lieu. Ça veut dire l'art du lieu dans lequel tu t'inscris, puis l'art du lieu que tu crées. Par exemple, alors quand un projet est réussi, pour moi, c'est un lieu. Et quand je veux dire, c'est pas un lieu anonyme, c'est un lieu cohérent. C'est ça que je disais. Donc, tu sais, on a créé un lieu. Je me rappelle les premières choses que j'avais faites quand j'étais étudiant. Il y avait un restaurant qui avait été créé qui s'appelait Le Luxe par Luc Laporte. Et Luc Laporte, qui est l'architecte qui a fait le restaurant L'Express, par exemple. Puis Luc Laporte, tous ses projets, c'est des lieux pour moi. Ça veut dire que quand on regarde L'Express, c'est un restaurant qui a 35 ans. Il n'y a pas un moment où tu vas voir L'Express en te disant c'est démodé, dépassé ou tout ça. T'sais, il y a quelque chose là. L'Express, c'est pareil, le luxe, c'était quelque chose où tu as quelque chose qui sont comme des classiques, qui sont
intemporels.
Ils sont intemporels, effectivement. Okay. C'est ça qui est vraiment abouti.
Mais vous avez nommé quelque chose de très important tout à l'heure. Vous vous êtes nommé comme chef d'orchestre et je l'entends bien. À ce moment-là, moi, quelque chose m'est venu à l'esprit, c'est-à-dire. Je l'ai nommé au départ, moi, de la ventilation, tout ça. On parle vraiment de structure, mais on parle également de beauté. Vous l'avez dit, ça va plus loin que d'être joli, là, mais comment on met ça ensemble? Est-ce que la structure, elle devient des fois un défi ou une limitation?
Pas vraiment. En fait, quand tu connais ces contraintes-là, tu les travailles relativement facilement. Mais on pourrait très bien la mettre en valeur. Là. Par exemple, si vous regardez le centre Georges Pompidou à Paris, ils ont mis toute la ventilation exposée dans le bâtiment puis ils l'ont peinturé. Bon, on peut très bien l'utiliser. Tout ça, c'est que pour nous, quand tu es un architecte, tous ces éléments-là, c'est ton vocabulaire. Tu peux très bien décider la ventilation que tu la fais disparaître. Moi, je ne suis pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais il y a des gens qui adorent ça. Ah non, mais il y a des gens qui adorent ça, qui vont l'utiliser vraiment comme un élément, tu sais, vraiment un élément architectural qu'ils vont exprimer. Moi, ça ne m'intéresse pas tant. Moi, j'aime mieux une architecture qui est plus puriste, où on va plus mettre les lieux en valeur, puis plus mettre les paysages. Puis dans les milieux urbains, j'aime aussi ces rapports-là, par exemple, d'intimité ou de créer vraiment des lieux qui ont une cohérence, puis une intimité, puis je sais pas, c'est presque un cocon. C'est ça qui m'intéresse. Mais quelqu'un pourrait le faire autrement. En fait, c'est un art de création. Quand je dis un chef d'orchestre, c'est un compositeur de musique. Là. C'est proche aussi. Là.
Et vous les trouvez où, vos idées, vos inspirations, justement? Ben
c'est toujours le lieu dans lequel on intervient.
Ça veut dire vous,
jamais, par exemple, pour moi, ce qu'il y a de pire, si vous vous demandez ce qu'il y a de plus loin de l'architecture, ouais. C'est les maisons préfabriquées, là, comme Bonneville et tout ça, pour moi, ça, c'est rien.
Qui sont déposées une espèce de...
complètement hors contexte, on met ça n'importe où.
Et on
où,
l'achète, oui, c'est ça.
Puis on dépose ça, bon, c'est un abri, ça va, mais pour moi, il n'y a jamais... Puis la composition n'est jamais si intéressante parce que les contraintes monétaires sont tellement importantes, les contraintes industrielles sont tellement importantes qu'il n'y a jamais vraiment des critères de composition esthétique qui contrôle ça.
Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le point de base du reste de la création. Et ça veut dire qu'il n'y aura aucune fin à cette à l'épuiser parce qu'à chaque fois, vous construisez quelque chose sur un nouvel endroit. Donc, c'est inépuisable.
Ah oui, c'est sûr. Par exemple, là, on fait un projet de resort en Inde, par exemple, dans les montagnes himalayennes.
Oh, wow.
C'est sûr que c'est pas du tout ce qu'on va faire ici, là. Puis c'est pas juste le lieu, il y a une culture, puis il y a une culture de construction. Là. C'est sûr que si j'arrive avec les...
L'utilisation des pièces est différente, disposition.
Oui, puis en fait, la construction, je peux pas prendre les techniques de construction qui est ici, puis aller dire à des Indiens de faire ça leur dit absolument
c'est
rien,
puis
c'est pas adapté, c'est ça. Donc tout ça, c'est comme une culture, donc tout cet élément-là culturel. Puis c'est pour ça qu'en général, l'architecture, c'est un métier à long terme. Ça veut dire que vous allez voir des architectes, c'est rare que vous allez voir un architecte célèbre à 35 ans, là. C'est pas... En général, un architecte va faire sa carrière plus qu'on l'a jusqu'à 80, 85 ans. Par exemple, récemment, l'an dernier, Dan Anganou est mort. Dan Anganou devait avoir 80 ans, mais il produisait encore. Il faisait encore des projets. Là.
Et c'est l'écho de quoi, ça? D'une passion qui ne s'éteint jamais?
Non,
c'est une vocation?
C'est vraiment un art. Tu deviens meilleur plus tu as d'acquis. Plus tu as d'acquis, plus tu maîtrises. C'est comme un langage qui, où il y a... Vous avez parlé de la ventilation, de la climatisation, tout ça.
Ah, ouais.
L'urbanisme, les règles. Tu sais, par exemple, tu fais un projet...
Ça m'a traumatisé.
Non, mais tu fais un projet, il y a des choses bien pires que ça. Là. Quand tu fais un projet, puis là, tu arrives, puis tu as tout ton concept...
Vous avez parlé d'isolation.
Non, non, tu as un concept, tu trouves ça extraordinaire, puis tu es emballé par ton concept, puis là, tout d'un coup, là, tu arrives à la municipalité, puis là, ils disent « Ah non, mais attendez, là, il y a un règlement,
tant
le
de
règlement
de
ci, de ça. » Puis après ça, il y a un PIA. Le PIA, ça veut dire que là, il y a des règles de comment l'administration voit l'architecture, comment elle doit être. Même si toi, tu trouves qu'elle n'est pas comme ça, elle ne devrait pas être comme ça du tout, mais il faut que tu ailles devant un comité. Ça c'est tout ce qui est lourd, lourd, lourd. Mais à la fin, tu finis par savoir comment travailler avec tout ça.
Mais comment travailler, justement, parce que vous êtes en partenariat, vous l'avez dit, avec Mme Hamelin. Et non seulement ça, en 1998, vous avez également partagé une maison avec un couple d'amis. C'était un projet que vous aviez, ça. Donc, la vie en communauté, le partage d'idées, le partage, être... entouré de gens au quotidien, tant pour travailler que pour vivre, est-ce que c'est une recette de bonheur pour vous épanouir tant dans votre vie personnelle que votre travail?
Ben, moi, j'aime ça travailler à deux. Travailler tout seul, je ne suis pas une personne qui aime ça être isolée dans son petit coin. T'sais, par exemple, quand je travaille avec Marie-Claude, on échange sans arrêt. Ça veut dire qu'on dépose des choses, je réagis, je lui dis non, ça, puis on travaille très aisément ensemble. En fait, on s'est rencontrés comme ça. On travaille à l'école avec des gens, puis tout d'un coup, quand on travaillait ensemble, on nous dit ah, c'est évident, ça nous semble. C'est comme si on a exactement la même vision des projets ou comment ils doivent être.
Ça, donc, là, c'est moins confrontant.
Non, c'est pas confrontant.
Par arriver à quelque chose.
Puis pour ce que vous disiez, pour le reste, le fait de partager une maison, en fait, on la partage encore. C'est notre maison de campagne. Mm-hmm. On est à deux familles. Ça, c'est pour une autre raison. C'est qu'une maison de campagne, ça a le défaut que c'est une maison qui est souvent vide.
Mm-hmm.
Alors, quand tu as une maison...
Souvent...
C'est ça. Alors, dans le fond, pour moi, une maison de campagne devrait être souvent partagée puisque ça devient... Au lieu de tu partages tout à plus, bon, probablement, ça te coûte moins cher. Mais en plus, c'est que nous, les enfants... aime ça, que ce soit le groupe. Alors, le chalet, la maison de campagne, c'est le lieu communautaire. C'est le lieu de rassemblement, quoi.
Et en terminant, au-delà du fait que plus on a d'expérience, plus on a d'acquis, meilleur on devient, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui veulent faire comme vous, devenir architecte et se démarquer, apporter quelque chose?
Bien, en fait, pour moi, c'est drôle, je dirais que l'architecture, ce qui est le plus important, c'est une certaine humilité. C'est très étrange. Mmh. Parce que en fait, il faut faire très attention de ne pas faire un geste d'esbrouf juste pour faire ton truc tout seul. Parce qu'en fait, ça devient toujours un petit truc à la mode qui devient passé très, très rapidement. Il faut donc que ce que tu fasses, ça soit extrêmement personnel puis extrêmement universel. Puis là, tu as réussi.
Personnel, humble et intemporel. Merci beaucoup, M. Yagoumakis, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci.
Merci. Journée mondiale et internationale de cette semaine, c'est le fun parce que chaque journée a sa petite chose à souligner. Et quelques journées en ont plusieurs. On va faire un rapide tour d'horizon, savoir ce qui se passe cette semaine à travers le monde. Le 22 mai est la Journée mondiale de la biodiversité ou la diversité biologique, ce qui englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivantes. Et ça, c'est entre 5 et 30 millions d'espèces, selon une estimation qui a été faite. Décrétée par les Nations unies, cette journée-là vise à nous sensibiliser et à augmenter notre compréhension des enjeux liés à la biodiversité. D'ailleurs, cette année, la Convention sur la biodiversité fête son 25e anniversaire et pour l'événement, on fait le suivi pour le plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 qui vise à atteindre plus de 20 objectifs afin de sauvegarder la vie sur Terre. Le 24 mai, journée mondiale du bricolage. Tout le monde est... J'aime bricoler, mais j'ai été un peu surprise de voir qu'une journée y était dédiée. Donc, j'ai été curieuse et également surprise de voir le sérieux de l'initiative et les pourquoi sous-jacents. C'est une initiative de deux chefs d'entreprise, Christian et Philippe. C'est la journée du bricolage, oui, mais aussi du « do it yourself » qui nous invite à faire les choses nous-mêmes, entre autres pour aider la planète dans le recyclage de matériaux déjà utilisés et leur donner une deuxième vie. Qui nous invite également à diminuer les dépenses reliées aux rénovations et aux achats pour diminuer la surconsommation en plus de développer nos habiletés personnelles et diminuer le stress. Et c'est vrai que c'est plutôt rare de ces jours-ci qu'on entend « Hey, j'ai bâti cette maison-là de mes mains, mon petit gars ». Non, mais c'est vrai, on le fait plus. Donc, le 24 mai, pour faire du bricolage en famille, pour en bénéficier soi-même pour notre santé, oui, pour notre portefeuille, mais également pour l'environnement, profitons donc, profitons-en donc. Hein. Tu sais, des fois, il nous faut une petite journée pour nous donner un coup, comme on dit, là, et faire les choses, ben faisons-le. 25 mai, journée mondiale de la thyroïde décrétée en 2007 lors d'un congrès de l'Association mondiale de la thyroïde, une glande importante pour plusieurs fonctions de notre corps, dont le métabolisme. Moi-même, j'ai vécu de l'hypothyroïdie et sincèrement, c'est pas très fonctionnel comme mode corporel, là, vraiment très fatigué. Très fatigué, t'as froid, puis tu pleures. Ça ressemble un peu à ça, c'est que c'est super le fun. Et on parle même d'une semaine complète de sensibilisation pour tout ce qui touche la thyroïde. Et ça a lieu du 22 au 28 mai, bien sûr. Et ça vise à sensibiliser de manière internationale les gens sur les affectations qui peuvent toucher la glande. On parle de 300 millions de personnes touchées à travers le monde. Et cette année, la campagne de sensibilisation se tourne vers les enfants et a pour titre « Capturer les papillons, repérer les symptômes évocateurs des troubles thyroïdiens chez les enfants », chose dont on parle très peu, donc c'est une belle occasion d'en apprendre davantage. Le 25 mai également, c'est la Journée mondiale des enfants disparus. Un phénomène qui me touche particulièrement et qui est venu dans ma conscience ou dans ma réalité par la musique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson « Runaway Train » de Soul Asylum qui est sortie dans les années 90. Moi, je devais avoir à peu près 7 ans quand c'est sorti et qui abordait le thème des enfants kidnappés avec des images chocs, des histoires diversifiées d'enlèvement et aussi des réels portraits d'enfants disparus au cours des années précédentes. Et c'était ma rencontre avec le phénomène des enfants disparus. Et comme on ne le voit plus beaucoup, hein, avant on disait que c'était sur les pintes de lait, excuse-moi, mais c'est plus comme ça que ça se passe. On a Internet, on se dira, mais quand même, c'est quand même impératif, je crois, que le phénomène continue de se faire démystifier et que de nouvelles façons pour le contrer soient élaborées. C'est le président Ronald Reagan en 83 qui a décrété la journée nationale des enfants disparus à la suite de la disparition d'un jeune enfant de 6 ans nommé Ethan Patz, disparu le 25 mai 1979 à New York. C'est 20 ans plus tard que l'Europe en a fait une journée mondiale, soit en 2003. Non seulement on veut sensibiliser à la cause des enfants disparus, oui, mais la journée met également en lumière la lutte contre la pédophilie et le réseau pédocriminel. Toujours le 25 mai, Journée mondiale de l'Afrique, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'unité africaine en 1963, symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. Cette journée, qui est fériée partout sur le territoire couvert par loi, invite maintenant tous les pays à organiser des événements qui renforceraient les liens entre tous les peuples africains. 28 mai maintenant, Journée internationale d'action pour la santé des femmes, qui concorde également avec la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et sérieusement, on peut dire ça, pour certaines, on peut se dire, ben voyons, c'est d'une évidence, mais pour d'autres, seuls et moins, on peut penser également à nos adolescentes qui peuvent largement bénéficier d'une telle journée d'information, de sensibilisation et de normalisation du cycle menstruel chez la femme. Pour sa part, la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, qui a été créée au Costa Rica en 87, et qui avait pour objectif de contrer la mortalité et la morbidité maternelle, oui, dis-je, veut maintenant axer son action sur un accès libre aux services de santé pour les femmes partout dans le monde. Et ça nous rappelle notre chance, à nous, de ne pas avoir à se poser cette question, ou du moins pas à l'égard de notre genre. C'était les Journées mondiales et internationales de la semaine. comme prévu, comme promis, il est loin, mais il est toujours proche. Et est-ce qu'il y a une meilleure terre d'accueil que le Nicaragua pour nous parler de bonheur? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est un bel endroit visuellement pour être inspiré à nous parler de la bonne humeur et du bonheur. Robert?
Bonjour, Emmanuel.
Ça va bien, toi?
Oui, tu m'entends bien?
Je t'entends très bien, merci de vérifier avec moi. Comment ça se passe?
Ça se passe bien, on a les yeux remplis de belles couleurs, les oreilles, des sons d'oiseaux. Vous les entendez peut-être parce qu'ils sont tout près. Et ça fait plaisir. J'ai des séances de travail d'écriture, mais évidemment, je profite de la nature autant qu'on peut. Et pour vous parler un peu de bonheur de si loin, il y a plein de pays formidables sur Terre, mais ici, c'est aussi intéressant. Je parlerai de la réalité politique ou sociale à un autre moment, mais je voudrais vous citer pour garder nos habitudes de vous passer des recettes ou des conseils, si on veut, de bonheur. Je voudrais vous lire quelque chose, c'est rare que je veux lire, mais là, c'est un texte d'un vieil ami à moi qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui a écrit pas mal de livres et qui a écrit ceci. Alors, du fin fond, du milieu du Nicaragua, le lac est pas loin en face, là. Il s'est dit, ça se lit comme suit. « Pour ma part, je tâche de construire, livre après livre, une éthique hédoniste du bonheur, qui suppose d'abord qu'on évite de mettre son existence au service de tout ce qui l'entrave sur le terrain des plaisirs. Première maxime, ne pas investir dans les monstres sociaux qui se nourrissent de notre énergie propre. Conséquence, ne pas célébrer le travail, la famille, la patrie comme des valeurs, mais placer sa vie sous le signe de l'indépendance. »
Qui sont ces monstres?
Les voici. Ils arrivent de loin, ils sont partout dans le monde, même ici en Amérique centrale. Ne pas viser l'argent, les honneurs, les richesses, et ce qui soumet la vie quotidienne à une logistique hystérique et mortelle. Ne pas sacrifier aux idéaux du marché, par exemple, le corps calibré, la famille moderne, l'idéal de la performance, la réussite sociale, le conformisme grégaire, le consumérisme aliénant, et vivre le présent, le vouloir dense, en le sachant unique, sans double. Et c'est important, ça se voit davantage dans des pays qui sont moins bien nantis que le nôtre, comme ici au Nicaragua, parce qu'on voit très bien que les gens arrivent à se contenter, ils n'ont pas le choix, à se contenter de peu, et ont souvent moins d'obstacles à être heureux. Ici, il y a des problèmes politiques pour le moment, mais je vous en parlerai à un autre moment.
Et justement, on connaît, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, de cette idée-là qui est largement véhiculée, comme quoi on ne doit pas vouloir d'argent. Tu ne trouves pas que ça vient d'une place qui, toi-même, te répugne souvent de se dire « l'argent, c'est sale, puis il n'en faut pas ». Il n'y a pas cette notion d'équilibre encore, de besoin de base, et que c'est correct de l'argent, ça peut être utilisé à bon escient.
Dans un pays comme ici, au Nicaragua, c'est assez évident. Il faut le minimum vital pour tout le monde. On doit aller chercher ça, faire les efforts voulus pour gagner son argent. C'est nécessaire, c'est un droit humain, parce que c'est le droit à la vie, et au bonheur, et au bien-être, au confort, et tout ce qu'on voudrait. Il y a la nourriture en particulier, et il y a la sécurité. Bon.
Mais c'est la fin qui ne justifie pas les moyens dans la mesure, et on en a parlé aussi de l'avarisme, qui est différent que d'avoir de l'argent pour justement avoir des projets, des rêves, mais aussi les besoins de base.
Emmanuel, l'avarice, il n'y a pas que Séraphin là-bas en haut au Québec, que ça existe ailleurs dans le monde. La pire façon, en fait, de courir après l'argent, c'est de vouloir l'accumuler, la thésauriser, comme on dit, c'est rien de bon. Je vous quitte maintenant parce que mon plat s'en vient, puis j'ai faim.
Tu resteras gourmand quand même, mais on se rappelle que ça a témoigné quand même un peu du bonheur, mais pour celle-là, je te la laisse parce que tu dois te délecter de nouveaux plats. Et la nouveauté, on sait, ça participe à notre épanouissement et donc on accueille le changement et ta nouvelle nourriture. Profites-en bien, Robert. Merci infiniment. Et tu restes avec nous, par contre. On va en musique et je veux que tu me parles quand même de bonnes nouvelles qui vont arriver.
Thank you.
On est toujours au bout du fil avec Robert, qui est au Nicaragua et qui ne nous a pas oubliés et qui continue à sourire à la vie et qui regarde les nouvelles avec entrain, je l'espère. Robert, tu as souri cette semaine plus que pour ton beau paysage, j'imagine.
Ben, j'ai souri d'abord parce que, de façon très égoïste, pour le travail que je suis en train de faire, je suis en train de terminer un bouquin sur Marcel Sabourin, la biographie de Marcel Sabourin. Et l'endroit est extraordinaire parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Marcel Sabourin ici. Donc, ça me donne tout à fait le recul. C'est plein d'oiseaux, il fait beau, c'est très agréable. Mais pour vous parler, Emmanuel, je vous vois parce que je suis très loin. Ça, c'est ce qui arrive avec la distance. On va parler de quelque chose que j'ai vu aussi au Nicaragua, et on me dit que ça existe aussi du côté du nord de l'Europe. C'est-à-dire qu'on met sur pied des logiciels maintenant qui permettent aux agriculteurs, les grands agriculteurs, les moyens, mais surtout les petits producteurs, même privés, parce que tu fais un jardin chez toi, puis tu as un peu trop de carottes, un peu trop de patates, puis pas assez d'asperges. Alors à ce moment-là, tu mets ça sur ce programme-là. C'est comme les sites de rencontre. Au lieu de se rencontrer, les gens rencontrent des carottes ou des pommes. Et là, tu vois qui a des surplus et tu peux faire des échanges avec ça. Ça existe ici au Nicaragua sur une très grande échelle, à tel point que la majorité des producteurs de fruits et légumes au Nicaragua sont des coopératives et non pas des propriétaires privés. Il faut dire qu'il y a tout le passé sandiniste ici, hein, de gauche, avec le cher président qui maintenant est reviré plus à droite, puis... Ça va pas bien politiquement ici. Les manifestations, je peux pas trop en parler, les manifestations sont difficiles. On est rendu une quarantaine de morts déjà, et il faut faire attention. Mais ce pays-là a quand même des bases sandinistes, en fait, qui sont des bases de gauche, de partage, partage de production, partage de consommation. Et ça se sent quand on parle avec les gens, quand on se promène avec les gens, qu'on cause un peu, on s'aperçoit qu'ils sont très, très préoccupés du voisin. Des échanges qui ne sont pas axés sur le profit, mais sur le fait d'être utile dans l'échange à l'autre. Et ça, c'est absolument extraordinaire.
Mais là, ce que j'entends, en fait, c'est qu'il y a un programme, et là, je veux t'entendre sur ce programme-là, j'imagine qu'il a un nom, mais où finalement, on revient quasiment au troc. C'est-à-dire que si moi, en tant que particulier, je connais mes ressources, je connais mes forces, je peux m'avancer comme étant quasiment, comme ben, tu l'as nommé, une coop, où je mets d'avance ce que j'ai à offrir et il y a du troc qui se passe, finalement. C'est ça, un peu.
C'est du troc et c'est d'autant mieux fait que j'ai peut-être pas précisé, mais c'est une application qui s'en va sur ton téléphone cellulaire et tout ça. Et il y en a plusieurs sortes de ce type d'application-là que tu peux utiliser. C'est exactement organisé comme des sites de rencontre parce que à partir d'un certain nombre de critères, ce que tu désires, ce que tu as besoin, etc., ça, tu partages ça. Puis quand il y a un match entre les besoins et les disponibilités, ça se fait. Et c'est absolument formidable. Ça fonctionne très bien.
Je trouve ça vraiment génial. Est-ce qu'elle a un nom, cette application-là?
J'en ai aucune idée. Comme c'est pas disponible chez nous au Québec, je vois pas vraiment l'utilité de chercher trop les détails. Mais l'idée est bonne et je souhaite que nous, là-bas au nord, au Québec, là, un jour, on comprenne ça et qu'on puisse s'en servir également.
Ben effectivement, je trouve que c'est absolument fantastique et je le souhaite aussi. Merci Robert d'avoir partagé avec nous cette belle vision que tu as et de nous apporter ça ici. Ça nous fait grand bien.
Et je te reviens dans quelques semaines.
J'espère! Thank you. à part cette semaine, ce qui m'a fait sourire ou ce qui a attiré mon attention, c'est un Syrien qui peint les chefs d'État en réfugiés. Il s'appelle Abdallah Al-Omari, qui est un peintre et un réalisateur, oui, syrien, qui lui-même a été un réfugié. En 2012, il est parti pour Bruxelles et il est non seulement talentueux, mais son œuvre a un but très clair qui est de rendre les hauts dirigeants empathiques. Et j'ai trouvé sa façon de faire absolument éloquente, originale, à la limite audacieuse, parce qu'il se dit, c'est très logique, en voyant leur propre visage dans des situations qui sont désolantes et qui impliquent d'être un réfugié, hein, que ce soit les transports, la pauvreté, ceux-ci ne peuvent faire autrement que de développer une sensibilité différente à la situation. Et aussi The Vulnerability Series, qui est exposée à France et à Dubaï, entre autres, expose The Boat, qui est une nouvelle œuvre, qui est un gros bateau avec tous les visages des plus grandes puissances du monde qui s'y retrouvent tous ensemble et il ajoute des visages un par un. Et je me reprends, The Vulnerability Series, qui est exposée en France et à Dubaï, c'est justement les chefs d'État qui sont peints en réfugiés, dans diverses situations que les réfugiés peuvent rencontrer. Et The Boat est une œuvre à part qui, elle, est affichée ou exposée en Corée du Sud. Mais sincèrement, si vous avez la chance de voir ce que ce peintre-là fait, c'est absolument, c'est de toute beauté et c'est vraiment, ça frappe fort au visage, en espérant que son initiative porte ses fruits. J'ai pas eu de nouvelles, mais c'est brillant et c'est touchant. J'espère vraiment que ça aura l'impact souhaité. Et parlant de Corée du Sud, la Corée du Nord et la Corée du Sud préparent officiellement la fin de la guerre. Hein? C'est 68 ans. C'est le nombre d'années que dure la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et la fin de la guerre coréenne en 54, les deux nations s'étaient entendues pour plus se faire la guerre, mais il n'y avait aucun traité de paix qui avait été officiellement décidé. Et ça a failli avoir lieu en 2007, mais avec un changement de gouvernement en 2008 pour la Corée du Sud et le refus d'inspection internationale de leurs installations nucléaires pour la Corée du Nord, les procédures ont nécessairement pris fin. Et récemment, une presse sud-coréenne a annoncé que ce traité de paix serait enfin signé lors d'une rencontre éventuelle lors d'un sommet des dirigeants dans les semaines à venir. Ce serait alors la troisième rencontre officielle entre le Sud et le Nord de la Corée qui viendrait à bout du conflit. Jamais 203, comme on dit, hein? Et il n'y a rien qui dit jamais 304, donc cette fois-là, ça devrait être la bonne. Donc moi, un petit peu plus de paix sur la terre, je trouve que ça, c'est digne de mention. Je vous parle également de la découverte de nomades qui sont adaptés à la vie sous l'eau. Encore une fois, dans les nouvelles dont on parle très peu, en fait, c'est pas tant la découverte des nomades marins, comme on pourrait les nommer, mais bien la réalisation scientifique que ces nomades-là sont les premiers et les seuls humains à avoir une modification génétique à la plongée. Le peuple Bajolot de l'Asie du Sud-Est, qui détient le record de la plongée la plus profonde, pour eux, ils peuvent plonger jusqu'à 259 pieds. 259 pieds, c'est 79 mètres sous l'eau. Et le temps record resté sous l'eau est de 3 minutes. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez fait les tests quand vous étiez jeune, enfant, dans la piscine. Là, moi, j'approchais le 1 minute et ce n'était pas du tout avec aisance. C'était avec beaucoup, beaucoup d'orgueil, sincèrement. Donc là, on est rendu à 3 minutes pour ce peuple-là. Ce peuple passe plus de 60 % de leur journée de travail sous l'eau. Et bien sûr, ce mode de vie-là et leur grande capacité sous l'eau est expliqué par une adaptation génétique. C'est une étude qui a été publiée dans The Journal Cell qui s'est penchée sur les changements génétiques qu'on subit encore en tant qu'humains pour mieux s'adapter à notre environnement. Et comme les Bajos ont toujours vécu de pêche et que leur équipement s'arrête à des lunettes de plongée en bois et quelques outils faits à la main, là, ils ont dû parvenir à mieux travailler autrement. Donc, pourquoi ne pas changer notre structure génétique pour ce faire? Je trouve ça absolument phénoménal, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de comprendre comment ils le font. D'ailleurs, on s'est rendu compte que leur rate était beaucoup plus grosse que nous, autres humains. Et c'est super important parce que c'est un réservoir pour les cellules rouges qui, elles, donnent plus d'oxygène à notre corps quand c'est libéré dans notre sang, bien sûr. Donc, on retrouve cette particularité-là, entre autres, chez les phoques. Et on va étudier ce peuple-là pour développer des traitements pour l'hypoxie, entre autres, qui est une déficience sur le plan de l'oxygène. Donc, il y a beaucoup d'affectations qui pourraient être utilisées, pour être traitées, pardon, en vérifiant comment ces peuples-là se sont adaptés sur le plan génétique. Il s'en suivra, bien sûr, plusieurs études scientifiques. Mais je trouve ça fascinant et il faut toujours étudier la nature parce qu'elle a toujours réponse à tout. Je remercie Jean-Sébastien à la liberté d'être toujours à mes côtés pour la tenue des émissions sur le Canal M. Je remercie également Catherine Bourderon pour la recherche. Je remercie Robert d'avoir pris du temps, de son précieux temps au Nicaragua pour être venu nous parler de bonheur et également Lucas Yakovakis d'être venu nous parler d'architecture. D'ailleurs, si vous voulez voir ses œuvres, vous pouvez visiter-le. Je cherche... j'ai tellement de feuilles devant moi que je ne lis plus. Je l'ai encore. Oui, le yh2architecture.com, c'est sincèrement magnifique ce qu'il fait. C'est pas pour rien qu'on l'a invité à l'émission. C'est de toute beauté. Et je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.